Alors, je reprends. Alors, maintenant, on a voulu faire un peu un test empirique à nouveau. Je fais la théorie et je veux quand même aller regarder des données sur le... Et donc là, cette fois-ci, je vais regarder les tests empiriques. Donc, toujours cette idée que je veux être indulgent quand il y a un échec de court terme et généreux quand il y a du succès de long terme. Voyez, donc ça, c'est le... Alors que je n'aurais pas cette attitude-là s'il y avait simplement de l'effort de production routinière, d'accord ? Alors, il y a eu une étude de Pierre Azoulay et co-auteur, Manzo, tiens, toujours le même, et il regarde, et donc c'est une étude empirique de cette idée de tolérance à l'échec et à l'exploration au sein de la recherche scientifique. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire ? Ils ont été comparer des résultats de deux programmes de recherche biomédicaux. Et donc l'un, c'est le Howard Hughes Medical Investigator Program, et avec le financement National Institute of Health, c'est l'Institut de santé. Vous savez, aux États-Unis, c'est quand même extraordinaire la recherche fondamentale, parce qu'il y a la NSF qui est l'antécédent de la NR. En fait, la NR s'est inspirée de la NSF. Et puis, il y a un autre institut qui est la National Institute of Health, qui finance des recherches dans la médecine et dans la biologie. Et puis il y a d'autres, et vous avez la NS, voilà. Et donc il y a cette nouvelle institut qui s'est créée. Alors on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette institution qui s'appelle le HHMI. Et en fait, le Howard Hughes Medical Investigator, c'est des choses suivantes, c'est qu'il voulait du financement pour du long terme. Si vous écoutez mon administrateur, il serait content parce qu'il pousse beaucoup pour cette idée-là. Et donc voilà, là il y a une étude qui prouve qu'il a tout à fait dans le bon raisonnement. Source privée de financement la plus importante pour la recherche biomédicale académique, c'est ce HHMI. Il sélectionne 50 jeunes scientifiques tous les 3 ans et c'est la source majeure de financement pour ces scientifiques-là. Et l'idée du programme, c'est de repousser les limites de la science. C'est centré sur les personnes, pas sur les projets. Alors, vous savez que la European Research Council a des programmes comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le Conseil de recherche européen a des programmes pour financer pas juste des projets, mais des chercheurs. Ce serait bien que l'ANR fasse ça, à un moment donné. Donc, augmenter les moyens de l'ANR. Tout ce qui peut augmenter les moyens de l'ANR, c'est bien. Renouvellement tous les 5 ans. Mais le premier examen est plutôt laxiste. C'est-à-dire qu'en général, on est assez cool, même s'il n'y a pas de résultat dans les 5 ans. On poursuit pendant plus longtemps. Donc il y a cette Howard Hughes Medical. Et voilà un certain nombre de prix Nobel qui ont bénéficié de financement avant d'avoir le prix Nobel, quoi. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit avant le prix Nobel, pas après, hein. Donc ça, voilà toute une flopée de chercheurs en biologie qui ont été avant sélectionnés pour cette bourse particulière, voilà. Et donc, alors évidemment, on pourrait dire que c'est un effet de sélection, c'est que simplement, ils ont repéré les bons et que ça n'a eu aucun effet. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Parce qu'on pourrait se dire, ils ont repéré des gens qui étaient déjà meilleurs que les autres et simplement, tout le mérite qu'ils ont eu, c'est la sélection. Et finalement, ce n'est pas l'argent qu'ils ont donné qui a fait qu'ils ont fait mieux après. C'est simplement qu'ils ont eu un mode, c'est comme le concours d'entrée aux grandes écoles, on sélectionne les bons et ils sont, voilà, c'est les meilleurs de toute manière, donc qu'on leur donne ou pas de l'argent. Mais on va voir que ce n'est pas vrai, il y a un effet du fait qu'on leur a donné de l'argent. Donc l'incitation à l'exploitation, alors par contre, si c'est plutôt l'exploitation, vous avez le financement NIH, et le financement NIH, là c'est des soutiens de projets particuliers, comme la NR maintenant, ça doit être renouvelé tous les 3-5 ans avec une probabilité incertaine. Et la critique habituelle, c'est que ça incite à choisir des sujets d'études moins risqués que si vous avez du financement de long terme. Alors évidemment, c'est un truc qu'on va voir tout à l'heure parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés. C'est que si les gens étaient tous très mauvais, on ne va pas financer pendant indéfiniment quelqu'un qui ne va rien donner. Donc on veut être sûr qu'on sélectionne les bons. Il faut être très bon pour sélectionner ceux et s'assurer qu'on va, voilà, et avoir des bonnes chances de réussir. Donc il y a ce qu'on appelle un trade-off, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il y a un arbitrage entre, d'un côté, en donnant un horizon très long, on permet aux gens de vraiment s'attaquer à des sujets très risqués, mais en même temps, évidemment, le risque, c'est qu'on finance trop longtemps des gens qui ne méritent pas d'être financés. Donc il y a toujours cet arbitrage-là. Alors ça montre que, en fait, si vous voulez, là, on regarde des gens qui, ça a été les boursiers National Institute of Health, et ça, c'est les boursiers HHMI, et vous voyez qu'en général, ça, c'est les délais de renouvellement, Et vous voyez qu'en fait, si vous voulez, dans les délais de renouvellement, eh bien, ils sont plus élevés. Ils sont plus élevés, évidemment. Voyez, en général, en moyenne, eh bien, voyez, vous avez essentiellement 5 ans avant que vraiment on regarde si vous allez être renouvelé ou pas, quoi. Donc, c'est le temps qu'il faut avant qu'on décide de vous renouveler ou pas. Et vous voyez que, eh bien, la grande majorité, c'est 5 ans pour les HMI, tandis que là, c'est plutôt 3 ans. Et vous voyez, ça, très vite, ça, voilà. L'horizon est plus court. On voit que l'horizon est plus court pour un chercheur financé par le National Institute of Health que pour un chercheur financé pour le HHMI. Donc ça montre vraiment l'histoire ça montre vraiment que le HHIM, je veux dire, est bien rempli sa fonction de donner du financement long. Voilà. Alors maintenant, c'est ça les figures qui sont intéressantes. C'est que là, je regarde au cours du temps. Donc, ce que j'ai en abscisse ici, c'est les années. Et ça, c'est ce qu'il faisait avant de recevoir la bourse. Et ça, c'est après la bourse. Oubliez la courbe en bas. Et ça, si vous voulez, c'est pour les publications. Et on voit, ce qui est très intéressant, c'est cette courbe-là. Elle est très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante, cette courbe-là? Parce qu'elle vous dit qu'avant d'être sélectionné, vous voyez, rien ne distinguait vraiment un chercheur HHMI, si on regarde l'ensemble des publications, vous voyez, si on regarde comme indice le nombre de publications. Évidemment, si on regarde le nombre de publications dans les top 5, dans les revues les plus citées, ou si on regarde le nombre de publications qui sont parmi les 5% les plus citées, un petit peu, vous voyez que quand même ceux qui sont sélectionnés, le HHMI, faisait un peu mieux que les autres, que ceux qui ne l'obtiennent pas, mais pas beaucoup mieux, vous voyez, ils sont un peu au-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde d'abord le nombre de publications en ordonnée, vous voyez que d'abord, à court terme, dans les 3 ans, c'est ceux qui sont financés en pointillés, c'est les NIH, c'est ceux qui ont du financement en cours, et en ligne pleine, c'est l'évolution des publications de ceux qui ont un financement HHMI, IM, à chaque fois je me trompe. Et vous voyez qu'à court terme, évidemment, il y a une meilleure performance, vous voyez, de ceux qui ont un financement court. Vous voyez, jusqu'à là, ils font un peu mieux. Mais vous voyez qu'après, ça diverge complètement, quoi. Dans l'autre sens, c'est ceux qui ont un financement long qui se débrouillent beaucoup mieux. Vous voyez ça? C'est intéressant, hein? C'est quand même extraordinaire, parce que regardez les courbes. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont pris des gens meilleurs. En tout cas, en termes du nombre de publications, vous voyez, c'est indistinguable, ces deux courbes, avant la période de la bourse. Donc, ça montre bien que ce n'est pas qu'un effet de sélection, c'est un effet que la bourse elle-même a un effet pour encourager la recherche d'un certain type. Vous voyez comment on raisonne? Vous voyez comment ça marche? Alors, ce n'est pas une expérience, c'est une expérience naturelle et pas vraiment naturelle, puisqu'on ne sélectionne pas au hasard, vous voyez? C'est un peu le débat Cahuc-Zilberberg. Cahuc-Zilberberg, il ne ferait pas ça, parce qu'il choisirait une population exactement identique. Alors, évidemment, on ne pourrait jamais regarder rien du tout, quoi. Donc, c'est un peu le problème, quoi. Voilà, je ne veux pas parler, regarder peu de choses, disons. Voilà. Mais ça, vous ne pourriez pas le regarder, en tout cas. Donc, voyez qu'à court terme, ceux qui ont du NIH font un peu mieux, mais après, voyez, ça diverge dans l'autre sens. Et maintenant, je me restreins au nombre de publications dans les top 5. Vous voyez que ceux qui ont été sélectionnés HHIM sont un peu meilleurs que les autres, mais voyez, là, l'effet de sélection, il passe un peu là, vous voyez. Mais voyez qu'après, les courbes divergent. Et que c'est vraiment les HHIM qui produisent plus de publications. Et donc, ils vont pour des recherches plus risquées et qui mettent plus de temps, mais qui vont être plus dans les top 5. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on veut? Si on ne veut pas juste vous inciter à faire de la recherche, on veut que vous fassiez de la recherche qui a un impact, qui soit donc très... Et une des mesures d'impact, c'est les citations, évidemment. Quand on fait des choses que personne n'intéresse, sont intéressées, et personne n'intéresse personne, évidemment, personne ne vous cite, d'accord? Mais quand vous faites des choses importantes. Voilà. Et donc, c'est quand même très intéressant, parce que ça valide un peu cette approche. Donc, la conclusion de cette partie, c'est que l'engagement nécessaire vis-à-vis du chercheur est notamment s'engager à ne pas pénaliser l'échec à court terme Et en tout cas, à moins à court terme, d'avoir des, disons, des low-powered incentives, ou en tout cas de ne pas pénaliser trop l'échec. Ça, c'est ce qui encouragera la recherche fondamentale, la recherche qui sera très citée. Et voilà. Moi, je reviendrai sur l'économie de la science dans mon dernier cours. Donc là, j'ai regardé en détail l'économie de la science. Hein, et je regarderai. Et qu'est-ce qui distingue un chercheur en science, un chercheur qui est à l'université ou dans un lab, par rapport à un chercheur qui travaille dans une entreprise d'un autre point de vue. Et je regarderai le. Voilà, je reviendrai sur ces choses-là, d'accord? Alors voilà, ça fait la première partie. Je voudrais maintenant vous parler des contrats de titularisation. Et après, je parlerai d'impôts. Il y a beaucoup de choses que je veux faire là. Il est déjà 18, et je vais donc maintenant regarder la partie 2. Et la partie 2, c'est les contrats, c'est expliquer un peu les... Voilà, je vais dans l'affichage, et je passe maintenant à le mode plein écran. Et voilà. Et donc, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la deuxième partie, c'est les incitations, d'ailleurs, ça devrait être deux, non monétaires à l'innovation. Je veux être sûr que je n'ai pas... Oui, c'est ça, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est en fait la partie 2, c'est l'incitation non monétaire à l'innovation. Donc, comment motiver... C'est la section 3, oui, parce que j'avais section 1, section 2. Section 1, j'ai compris bien. Section 1, c'était art. Section 2, c'était les incitations monétaires. Et section 3, c'est les monétaires. Et là, c'est les incitations non monétaires. Donc, on est bien section 3. Comment motiver des individus? Alors là, je m'intéresse beaucoup. Comment ça m'est venu, cette idée? C'est avec Hollande, en fait, vous voyez? Non, un peu. Non, je plaisante un peu, mais ça peut vous distraire, parce que là, je sens que je vous ai vraiment fait souffrir. Donc, je vais un peu vous faire un peu le clown. Comment motiver les individus comme des dirigeants politiques? Est-ce que le problème d'Hollande, c'est que on le paye pas assez? Est-ce que c'est qu'il travaille pas assez? Je crois qu'il travaille beaucoup. Non, je sais qu'il passe beaucoup de temps avec les journalistes, mais je crois qu'il travaille de longues heures. Voilà. Mais je crois que c'est quelqu'un qui va à son bureau tôt le matin. Vous pouvez pas dire que voilà, qu'il prend beaucoup de vacances, etc. Je crois pas qu'il en prenne beaucoup. Le problème n'est pas tellement ça. Le problème, c'est que il prend pas beaucoup de voilà. On peut penser ou pas penser que voilà. Est-ce qu'il a pris les grandes décisions, voilà, ou pas? Est-ce qu'il a pris des décisions risquées? On est toujours sur ce risque là. Vous savez, avec la recherche. Est-ce qu'il a pris les grandes décisions risquées? Voilà. Il y a comme ça des généraux. Il y avait un général, McLaughley, je crois, je ne sais plus comment il s'appelait, qui, un général pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis, et il ne prenait pas assez de risques. Et il a été limogé parce qu'il ne prenait pas assez de risques. Quoi. Voilà. Il ne prenait pas les actions qu'il aurait dû prendre. Mais c'est vrai aussi pour des juges, des universitaires, des employés du secteur public, des PDG. Le problème n'est pas tellement qu'ils ne bossent pas assez, c'est qu'on voudrait qu'ils prennent des décisions, qu'ils prennent des risques. Et donc, on est toujours sur cette idée de prise de risque. Et comment on fait qu'ils prennent des risques? Voilà. Et il y a des situations dans lesquelles les compensations monétaires... Bon, j'ai parlé des compensations monétaires. J'ai dit qu'on veut avoir des prix, on veut primer le succès et on veut pas trop pénaliser l'échec de court terme. Les salaires, ça aide à quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moyens non monétaires d'inciter à la prise de risque. Et les moyens non monétaires, eh bien, c'est de vous donner un poste ou de ne pas vous le donner. C'est de vous garder ou ne pas vous garder. Et en gros, en politique, c'est ça surtout. Quel est le truc l'important? L'incitation principale d'un président, c'est d'un général d'être élu, ou en politique d'être nommé à des postes, beaucoup plus que du salaire, beaucoup plus. Et dans le milieu universitaire, si vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, etc., et maintenant on commence à l'introduire chez nous, c'est très important d'être titularisé. Vous voyez, quand vous êtes un jeune assistant professeur, un jeune maître de conf, si vous voulez, eh bien, le salaire, évidemment, il faut que vous soyez correctement payé, et bien payé, mais ce qui est important, c'est le fait, est-ce que je vais être titularisé? Et quand vous voyez des jeunes professeurs assistants aux États-Unis, ils travaillent vraiment énormément, et ils sont là à dire, je dois sortir un grand papier, ou des papiers qui changent un peu le paysage, parce que sinon, eh bien, MIT ne me donnera pas ma titularisation, Harvard ne me donnera pas ma titularisation, Stanford ne me donnera pas ma titularisation. Et donc, c'est beaucoup plus ça que le salaire qui détermine l'incitation qu'ont ces personnes à prendre des risques. Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de dire, voilà, oublions les salaires et regardons des incitations, comment je vais... Et là, l'idée n'est pas tant que je vais induire de l'effort, parce que tout le monde travaille dur, mais je veux être sûr que j'incite à prendre les bonnes décisions, j'incite à la prise de risque, j'incite à ce que les chercheurs, les jeunes chercheurs, s'attaquent à des problèmes qui sont compliqués et pas à des problèmes triviaux, voilà. En gros, si vous voulez, c'est que supposons qu'on est dans un monde où, toujours avec un principal et un agent, le principal, c'est disons, c'est, je sais pas, c'est nous, par exemple, ou c'est le directeur de l'université, si c'est une université, l'agent, c'est le chercheur, je vais l'appeler leader, parce qu'on veut qu'il prenne des décisions. Hein. Je l'appelle leader, mais l'agent, voilà, le chercheur, je devrais dire chercheur ici, et donc je suis dans un monde où je ne peux pas utiliser le salaire tellement, et tout ce que je peux faire, c'est décider de remplacer ou de garder ou de ne pas garder cet employé chaque année. Vous voyez, je veux dire, chaque année, je prends la décision, est-ce que je te garde, est-ce que je ne te garde pas. Et je veux savoir, et déjà, je veux montrer qu'on peut faire des choses. Et moi, rappelez-vous, ce que j'ai en tête, c'est de rationaliser le tenure track, c'est-à-dire ce schéma où pendant 6 ans, eh bien, vous êtes employé pendant 6 ans, on vous donne 6 ans pour faire vos preuves, et au bout de 6 ans, on décide si on vous garde pour toujours ou pas. Hein, vous pouvez penser que c'est un truc fou, et je vais le rationaliser pour vous, d'accord ? Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Donc, maintenant, j'ai un chercheur, hein, pensez que c'est un universitaire, et moi, je suis le président de l'université, et je décide si je dois le garder ou pas. Alors, évidemment, ne jamais remplacer, avoir une politique où je ne remplace jamais un jeune chercheur, c'est embêtant parce que je peux être conduit à garder, évidemment que ça, à ce moment-là, s'il avait la sécurité de l'emploi toute sa vie, il prendrait des risques, mais il se peut qu'il soit incompétent. Donc le problème, je pourrais toujours dire, évidemment, je veux qu'il prenne des risques, eh bien, j'ai qu'à dire d'emblée que je te garde tout le temps, comme ça, tu sais que tu as ton poste garanti, et puis tu vas... Mais là, il y a un problème parce qu'il va se dire, mais alors, là, du coup, je risque d'être bloqué avec des gens qui ne sont pas compétents. Et moi, je suis quand même Harvard ou MIT ou Collège c'est différent, ce n'est pas en tenure track que ça marche, mais d'autres universités, et où on dit, voilà, je vais quand même être sûr que j'ai des gens qui sont très bons. Voilà. Donc ça, c'est le problème de ne jamais remplacer. Le problème, si je remplace, c'est qu'à ce moment-là, si quelqu'un sait qu'il va être remplacé, s'il y a un échec, il ne va pas vouloir prendre de risques. Il va se dire, oulala, je ne vais surtout pas faire un papier qui va être refusé pour publication, parce qu'à ce moment-là, voilà, vous ne voulez pas, quoi. Donc, d'un côté, si je ne remplace jamais, je vais peut-être obligé de garder des gens incompétents, et puis, d'un autre côté, si je ne donne aucune garantie de titularisation, eh bien, il se peut que je décourage la prise de risque. Donc le défi, si vous voulez, c'est de concevoir une séquence de décisions de remplacement ou non-remplacement pour inciter le manager ou le chercheur à prendre des risques, mais de façon à pouvoir aussi déceler et remplacer des gens incompétents. Vous voyez, je veux dire, vous voulez à la fois sélectionner les chercheurs compétents et en même temps inciter à la prise de risque. Et vous voyez que les deux objectifs entrent en conflit l'un avec l'autre. Et c'est ça le défi. D'accord ? Donc, maintenant, la question, c'est de savoir comment vous faites ça. Alors, je vais un petit peu vous mettre un peu... Alors, comment je fais ça ? Eh bien, supposez que vous ayez plusieurs périodes. Donc, tout ça, je vais le dire en mots. Hein, ne vous inquiétez pas, les formules, il n'y a aucun intérêt. Vous les regardez, mais écoutez-moi, simplement. Donc, j'ai un agent, j'ai un chercheur, et un chercheur choisit à chaque période entre une décision pas risquée, routine, et une décision risquée. C'est toujours la même histoire. Je vais supposer qu'il observe un signal sur le bien fondé de la décision risquée. Alors, si c'est quelqu'un de très compétent, le signal va être très fidèle. C'est-à-dire que le signal vous dira exactement s'il faut prendre le truc risqué ou pas. Parce que je vais supposer qu'il y a des états de la nature, un état 1 et un état 2, un état X et un état Y. Et dans l'état X, eh bien, vous devriez, le mieux, ça serait de rien faire du tout. Dans l'état Y, le mieux, ça serait de prendre l'action risquée. L'action risquée, c'est Y, l'action pas risquée, c'est X, qui vous donne 0 tout le temps. Et si j'ai quelqu'un de très compétent, eh bien, il saurait parfaitement que si on est dans l'état X ou dans l'état Y, il aurait un signal parfait de l'état. Et à ce moment-là, il saurait choisir. Mais un incompétent, il reçoit un signal dont il n'a aucune idée de l'état, quoi. Et comment je définis la compétence ? C'est que quelqu'un de compétent, il a un signal qui est très informatif sur l'État, et quelqu'un d'incompétent, il a un signal qui n'est pas du tout informatif sur l'État, il prend au hasard l'action. Et donc, si vous voulez, le leader compétent comprend le signal, le leader incompétent ne comprend pas le signal. Et puis, sur la base du signal, l'agent agit et prend une décision. Et le principal va choisir chaque période. Et seulement, donc la décision, évidemment, s'il a pris une décision qui était l'action Y dans le grand état Y, l'outcome C1, ça va être observé par tout le monde. Donc je vais savoir s'il y a succès ou pas succès. S'il a pris l'action Y dans l'état X, là, il a fauté. Visiblement, il n'était pas bien informé, parce que s'il avait parfaitement observé le signal, était très bon, il saurait qu'il est dans l'état Y, il aurait pris l'action I petit Y seulement dans cet état. S'il prend cette action-là dans l'état, s'il prend l'action petit Y dans l'état grand X, c'est que vraiment le type, il n'observe pas, il a un signal qui est très mauvais, qui reflète très mal l'état de la nature. Donc, si vous voulez, ce qui se passe est très simple. Donc, chaque période, le leader choisit entre une décision risquée et pas risquée. Il a un signal, il agit sur la base de son signal, il prend l'action, un outcome est réalisé, 1 ou 0 ou moins V. On observe l'outcome et sur cette base, le principal décide de remplacer ou de ne pas remplacer. Alors, ce qu'on va supposer, c'est qu'initialement, j'embauche François-Xavier et puis je ne sais pas, il a une probabilité d'être compétent, une probabilité de ne pas être compétent a priori. Et on a la même connaissance de ça, mais je vais actualiser, quand je vais voir ce qui réussit beaucoup, si par exemple il prend beaucoup de fois l'action risquée, je vais améliorer, évidemment on va tous, et François-Xavier et moi, on va actualiser la probabilité qu'il a d'être compétent, et évidemment partant d'une probabilité initiale, eh bien plus François-Xavier aura des succès, plus c'est évident qu'il est bon. Vous comprenez ? Au contraire, s'il a beaucoup d'échecs, plus c'est évident qu'il n'est pas bon du tout. Donc, et à ce moment-là, à un moment donné, je déciderai de le garder ou pas de le garder. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Donc c'est ça. Vous embauchez un chercheur, vous ne savez pas a priori s'il est bon ou s'il n'est pas bon. C'est au cours du temps, quand vous observez les outcomes répétés, que vous décidez qu'il est suffisamment bon, qu'il a de bonnes chances d'être très compétent ou pas de bonnes chances d'être compétent. Et si vous pensez qu'il est très incompétent, vous ne le gardez pas. Si vous pensez qu'il est incompétent, qu'il est compétent, vous le gardez. Donc voilà, le leader est soit compétent avec probabilité lambda 0 ou incompétent avec probabilité 1 moins lambda 0. Incompétent reconnaît, son signal, c'est l'état de la nature avec une probabilité plus grande qu'un demi, par exemple 1. Prenez le cas extrême où un compétent reconnaît parfaitement l'état de la nature et un incompétent, il ne fait aucune différence. C'est probabilité 1,5, c'est-à-dire que le signal est totalement non informatif. Ça pourrait être aussi bien, le signal élevé pourrait être aussi bien dans le bon état ou dans le mauvais état de la nature. Et simplement, je vais apprendre, le principal et le chercheur vont apprendre en même temps, au cours du temps, s'il est compétent ou s'il n'est pas compétent. Donc, le leader recueille les bénéfices. Chaque fois que j'emploie François-Xavier, il a un bénéfice privé. Je suppose que ce n'est pas juste un salaire, ou il a un salaire fixe, si vous voulez, et chaque période où il est gardé, mais il est content, ce n'est pas simplement d'avoir un salaire, il est content de travailler à MIT ou Harvard, puisque quand vous travaillez, ou dans un très bon département, quand vous travaillez dans un très bon département, une très bonne université, il y a Strasbourg, il y a plein d'endroits en France, plein qui sont très très bons, et vous travaillez dans un bon endroit, ben, c'est le plaisir d'interagir avec des collègues, c'est tout le plaisir que vous avez d'être dans un endroit, il n'y a pas que le salaire c'est tout petit, il y a quand même l'interaction scientifique qui est quand même la grande partie du plaisir que nous avons chercheurs. Donc l'idée, c'est qu'on a la même information de départ, le principal et l'agent sur la compétence du leader, et l'information sur la compétence est actualisée à partir des performances passées. Est-ce que vous entendez toujours ? C'est bon ? Là, j'ai pas... D'accord. Donc, en fait, ce qu'on va montrer, c'est que d'abord, je regarde le cas où, en fait, eh bien, c'est l'information symétrique, c'est-à-dire que les deux observent l'état de la nature. Tout est observé par les deux. Et je regarde simplement si le type observe le bon truc. Donc j'observe le signal. Le signal est observé par les deux. D'accord ? Et après, on observe à la fois le signal et tous les deux, on observe, moi, l'employeur et l'employé, on observe le signal et on voit qu'il choisit. Et à ce moment-là, donc il n'y a pas d'information privée de l'employé par rapport à l'employeur. Et à ce moment-là, on peut montrer, je vais vous montrer un truc, c'est très intuitif, mais je vais vous effacer ici, et je vais vous montrer simplement, en effaçant, je vais le dessiner au tableau, voilà, c'est qu'on peut montrer qu'à ce moment-là, dans un cas comme ça, quand tout est observé de manière symétrique, le signal est observé par tout le monde, l'outcome est observé par tout le monde, eh bien, ce qui se passe, c'est que si je mets ici le temps, donc je mets le temps, les années, quoi, et je mets ici la probabilité de remplacer mon agent, ma probabilité de remplacement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette probabilité, elle va faire une courbe comme ça, typiquement. C'est-à-dire qu'initialement, il va y avoir une période de... la probabilité de non-remplacement. Oh là 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 là. la probabilité de remplacement. Non, non, c'est bien ce que je dis. Non, non, j'ai bien, j'ai d'accord. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est initialement, j'embauche François-Xavier. Je ne vais pas le remplacer tout de suite, parce que si je remplace, mettons qu'il ait un échec, peut-être qu'il a eu de la malchance. Donc, je ne vais pas le remplacer tout de suite, je lui donne une période, disons, de lune de miel, vous voyez. C'est-à-dire qu'au début, je vais le garder, parce que je veux savoir s'il a eu de la malchance ou s'il est vraiment incompétent. Donc, je lui donne, vous voyez, et au début, j'ai une probabilité de remplacement très faible. Et puis, petit à petit, s'il y a beaucoup d'échecs, eh bien, la probabilité de remplacement va être plus grande. Donc, au début, même s'il y a des échecs, je ne remplacerai pas. Et puis, plus ça va, plus un échec de plus, je me dis, vraiment, il n'est pas bon et je dois partir. Mais à un moment donné, si je n'ai pas remplacé François-Xavier, alors qu'il y a déjà un temps très long qui s'est écoulé entre le début de son contrat et maintenant, il y a de bonnes chances que François-Xavier soit très bon. Et donc, la probabilité de remplacement retombe. Vous comprenez le raisonnement? Vous voyez comment ça marche? Vous avez compris ça? Ben, dis donc, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Voilà. Donc, la lune de miel initiale, on attend assez d'échecs avant d'envisager un remplacement. La période intermédiaire, la probabilité de remplacement est la plus importante. Et dans le long terme, eh bien, une survie longue que François-Xavier ait survécu jusque-là, ça veut dire qu'il a de grandes chances d'être compétent. Et donc, du coup, la probabilité que je me le garde pas est faible. D'ailleurs, il est formidable, je ne vais jamais m'en séparer. Et Simon, ils sont vraiment formidables. Voilà. Mais bon, voilà, ça dépend évidemment de la... Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Alors maintenant, je vais regarder le cas où le principal, moi, l'employeur, je n'observe pas le signal. Et donc, je ne sais pas s'il a pris l'action risquée ou pas, d'ailleurs. Je n'observe pas l'action, voilà. Je ne peux pas dire, voilà, je ne peux pas dire tu vas prendre l'action. Je ne peux pas forcer François-Xavier à prendre l'action. Tout à l'heure, je pouvais le forcer à prendre l'action risquée, vous voyez. Et je pouvais dire tu prends l'action risquée et après une probabilité de remplacement. Maintenant, je ne peux pas te forcer à prendre l'action risquée, voilà. Et donc, à ce moment-là, je ne peux que t'inciter. Et si je peux t'inciter, il y a deux manières de t'inciter à prendre des risques. Souvenez-vous, François-Xavier, il se dit, si je prends l'action risquée et j'ai un échec, il va me virer. Il y a un grand risque, il me remplace. Donc, je vais vouloir prendre l'action pas risquée. Mais évidemment, je pourrais lui dire, je te garde d'emblée. Et je, quoi qu'il arrive, je ne te renvoie jamais. Mais si je fais ça, j'ai un risque de me retrouver avec quelqu'un d'incompétent. Donc, je ne veux pas faire ça non plus. Alors à ce moment-là, il y a deux manières de motiver l'agent. J'ai la carotte et le bâton. La carotte, c'est de dire, je vais te dire la carotte, c'est je te titularise à un certain moment. Et le bâton, c'est de dire, si tu prends l'action non risquée, et ça je peux le savoir, si tu prends l'action non risquée, eh bien, même, donc bien que tu la prends non risquée, je la rends risquée, moi. C'est-à-dire que, pour te pousser à prendre des risques, si tu prends l'action non risquée, avec une certaine probabilité, je vais te virer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce n'est pas efficace, nécessairement. Donc, pour t'inciter au risque, donc j'ai la carotte et le bâton. La carotte, c'est de dire, tu prends l'action, risquée, je te titularise. Le bâton, c'est te dire, tu prends l'action non risquée et je t'en renvoie avec une certaine probabilité, même si tu n'as pas révélé quoi que ce soit sur ton incompétence. Tu vois? Et donc, il y a l'idée de la carotte et du bâton. Et ça, si tu utilises la carotte et le bâton, ça dépend de la probabilité du coup qu'il y a à remplacer par quelqu'un d'autre. Tu vois? Si tu as un coût de remplacement très élevé, tu vas aller typiquement pour la carotte, quoi. Tu vas pas vouloir remplacer, tant pis, tu es bloqué avec quelqu'un d'incompétent, mais au moins, voilà, tu l'as incité à prendre des risques et tu n'as pas à payer le coût de remplacement. Si le coût de remplacement est faible, alors à ce moment-là, tu es prêt à jouer le bâton, c'est-à-dire à punir et à remplacer, même des fois où il faudrait pas, mais le coût de remplacement est faible et donc tu fais la stratégie du bâton. Et donc, si le coût de remplacement est élevé, tu vas donner dans un cas où il y a deux périodes seulement, tu vas donner tout de suite la titularisation à François-Xavier. Et si le coût de remplacement est faible, alors tu le remplaces s'il prend une décision, tu peux le remplacer à tort s'il prend une décision risquée. Tu le maintiens s'il prend une décision risquée. Et tu le conserves avec une probabilité qui n'est pas 1 s'il prend l'inaction. Maintenant, quand tu fais un modèle à trois périodes, tu peux avoir un remplacement aléatoire. C'est qu'à trois périodes, la différence, c'est que tu peux avoir une période probatoire. Trois périodes, je peux utiliser la première période pour savoir si Simon est bon ou pas. s'il a du succès ou pas. Je lui laisse la possibilité. Et ensuite, je peux, selon qu'il a eu du succès ou pas, eh bien, décider que je vais le tutélariser après ou pas. Donc, j'ai plusieurs choses que je peux faire à trois périodes. Je peux d'abord dire à Simon, je te garde, quoi qu'il arrive, dès le début. Et puis après, je peux prendre une décision qui est de dire, je te conserve en dernière période si tu as fait un choix risqué qui a marché en deuxième. Et puis, tu peux dire, je ne te garde pas si tu as fait une action risquée en deuxième période qui ne marche pas. Et pour décourager, et en fait, ce que tu peux montrer, c'est qu'à nouveau, si tu as des coûts de remplacement très faibles, eh bien, ce qui est optimal, c'est la politique du bâton complet, c'est-à-dire que je ne fais jamais titularisation, mais pour décourager l'action non risquée, je dis, si tu prends une action non risquée, quoi qu'il arrive, avec une certaine probabilité, je te vire, d'accord ? Ça, c'est si c'est très non coûteux de remplacer. Si c'est très coûteux de remplacer, je te donne la teneur tout de suite. Et dans les cas intermédiaires, je dis non, tu expérimentes aux premières périodes. Si tu as raté, je te vire, mais si tu as réussi, je te teneur. Et ça, c'est le contrat qu'on observe dans les collèges, dans les lycées. Tu vois, dans les lycées, je veux dire, dans les universités américaines ou dans les grandes universités. C'est de dire, c'est le cas où je te donne une période probatoire et au bout de la période probatoire, je décide si je te titularise après la période probatoire ou pas. Et là, tu peux rationaliser complètement. Tu peux dire, voilà, il y a, disons, une zone où tu veux titulariser tout de suite, une zone où tu veux jamais titulariser, et une zone de coût de remplacement où l'optimum, c'est de dire, voilà, j'ai le meilleur des deux mondes, je laisse essayer, parce que le coût de la titularisation tout de suite, évidemment, c'est que je suis bloqué avec des gens pas compétents. Si j'attends un peu pour titulariser, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un de compétent. Tu comprends ? Mais quand même, je lui donne la titularisation à un certain moment pour lui donner l'encouragement de prendre une action qui est risquée. Vous voyez, c'est ça un peu le vous voyez un petit peu comment ça marche ? Voilà, donc quand j'ai des coûts faibles de remplacement, c'est le remplacement aléatoire qui est optimal. Quand j'ai des coûts intermédiaires, c'est la teneur sous condition, c'est-à-dire période probatoire et je teneur après. Et des coûts très importants, je donne la teneur immédiatement. Donc voilà, les coûts faibles, solution du bâton, coûts intermédiaires, solution de la demi-carotte, coûts importants, solution de la carotte totale. Voilà. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rationaliser, vous voyez, on peut, même si on oublie les incitations, mais on obtient à nouveau l'idée qu'il faut donner de la sécurité. Pour inciter à la prise de risque, vous devez donner de la sécurité. Mais le problème de donner de la sécurité, c'est que vous risquez d'être bloqué avec des gens pas compétents. Et c'est ça toute la difficulté de donner des incitations à la recherche. Vous voulez donner un filet de sécurité, mais vous ne voulez pas que ce filet de sécurité soit tel que vous êtes bloqué avec des gens qui ne feront jamais de la très très bonne recherche, quoi. Vous devez à la fois sélectionner et en même temps donner des incitations à la prise de risque. Et c'est la combinaison des deux choses qui fait qu'on obtient cette mélange de période probatoire et ensuite de titularisation. Donc c'est intéressant, parce que c'est des contrats qui, en France, c'est un gros truc de faire passer la tenure track. C'est une révolution avec les contrats de droit public et les contrats de droit privé de reconstituer la tenure track en France. Mais je crois que c'est un système qui a fait ses preuves parce qu'il a réussi à faire ça. Alors je vous ai fait souffrir énormément, mais là maintenant, il est 37 et je vais maintenant vous parler de choses beaucoup plus agréables, parce que vous avez beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Et je vais parler d'incitation. La troisième partie que je vais faire, voilà, je vais vous parler de fiscalité. Alors, je commence aujourd'hui sur la fiscalité, je terminerai la prochaine fois. Je vous ai dit, il y a tout un... En fait, je vous ai dit que c'est vraiment l'incitation que l'État peut donner à des innovateurs. Et l'important, c'est une dimension importante, c'est l'incitation fiscale. Et il y a eu plusieurs études, maintenant il va y en avoir de plus en plus, qui regardent la fiscalité de l'innovation. Voilà. Ce qui est un des grands manques dans les débats sur la fiscalité, c'est qu'on ne sait pas distinguer, ce que j'ai dit la dernière fois, entre un Carlos Slim et un Steve Jobs. On ne sait pas distinguer entre un innovateur et un non-innovateur. Et ça a des conséquences très importantes. Je vais d'abord aujourd'hui regarder l'effet de la fiscalité sur la recherche-développement au sein des entreprises. Et je vais ensuite, la prochaine fois, pour commencer, regarder l'effet du système fiscal sur la mobilité internationale des inventeurs. Donc, laissez-moi commencer par regarder le premier, et je m'en tiendrai au premier pour aujourd'hui. Donc, c'est un article de co-auteur de John Van Rienen, qui est un Anglais qui est parti aux États-Unis, et de ses co-auteurs, et ils regardent, il y a eu un peu l'équivalent, c'est pas l'équivalent du crédit impôt recherche, mais c'est un peu ça en Angleterre, et ils regardent les effets que ça a eu sur l'innovation. Et donc il y a eu de nombreuses, il y a eu par exemple des études sur l'impact du crédit impôt recherche en France, Mais il y a toujours un problème de causalité, parce qu'on ne sait jamais si c'est parce qu'on a donné le crédit que la recherche, que l'innovation a lieu, ou parce qu'on a sélectionné, ou est-ce qu'il y a... C'est une corrélation, mais pas une causalité. Donc c'est toujours, vous savez, je vous ai toujours expliqué que dans, quand on voit des corrélations entre des variables, c'est pas toujours très clair qu'elles reflètent une causalité de ce que vous cherchez. Vous voyez, de, par exemple, d'ici, de, je voudrais qu'il y ait un effet causal de la fiscalité sur l'innovation. Et donc, il y a peu de preuves des impacts sur les produits innovants. Donc c'est ça que fait Vandrinon. Et Vandrinon, il évalue l'impact du système fiscal britannique sur la R&D et les brevets en entreprise. Et ce qu'il fait, c'est qu'ils exploitent une discontinuité dans les aides à la R&D. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse des seuils d'éligibilité pour les PME en 2008. Voilà. Donc on devient, en fait, si vous voulez, on devient éligible. Une hausse, en fait, non ? C'est une hausse de l'éligibilité, pas une baisse. Il y a une, c'est-à-dire qu'avant, il fallait être tout petit pour bénéficier, c'est une hausse. Il fallait, avant, il fallait être tout petit pour bénéficier de l'éligibilité, et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que c'était plus grand. Vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous tracer ici la taille de la PME, je vais vous tracer la taille de la PME, voilà, taille de l'entreprise par le nombre d'employés ou par le chiffre d'affaires, là, c'est par le chiffre d'affaires, taille des entreprises. Eh bien, ici, il fallait un seuil là, et on déplace le seuil ici. C'est-à-dire qu'avant, on était moins imposé pour la R&D jusque-là, et après, on était plus, et après, on déplace ce seuil-là, en 2008, et on regarde l'effet que ça a sur ces firmes-là, évidemment. Vous voyez ? Et c'est ça qui est... Donc, il y a une expérience naturelle, et on regarde l'effet. Et en quoi l'effet est différent pour ces firmes que pour celles qui étaient déjà là ? On veut montrer notamment qu'il n'y a pas d'effet pour les firmes au-dessus, qui, elles, sont soumises au même régime avant et après 2008. Tandis que ces firmes-là ne sont pas soumises au même régime avant et après 2008, vous voyez ? Et on veut regarder l'effet que ça a. Et c'est comme ça qu'on essaie de voir une causalité, vous voyez ? Donc, on fait ce qu'on appelle une regression discontinuity. On essaie de voir, de dire, voilà, il y a une discontinuité, et on va essayer de capturer avec l'économétrie cette discontinuité à ce seuil, vous voyez, qui est le seuil d'éligibilité. Alors, alors, la politique fiscale, elle est basée sur le montant total de R&D, et le crédit d'impôt américain lui est calculé en fonction de l'augmentation de R&D par rapport aux années précédentes. Alors, donc, voilà, donc c'est un petit peu le système britannique d'aide à la R&D en général, mais le problème, c'est de savoir qui est éligible et qui n'est pas éligible à différents régimes. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que ce qui est important, c'est là, c'est qu'en 2008, eh bien, on augmente la taille minimale d'éligibilité des PME. C'est-à-dire qu'en en fait, si vous voulez, eh bien, avant 2008, eh bien, il fallait avoir un actif inférieur à 43, quoi, à 43 millions de livres, c'est ça ? Euros ? 43 millions d'euros pour être éligible. Et en 2008, eh bien, on porte cet actif à 88, à 86 millions d'euros. Vous voyez, donc toutes les firmes qui ont moins de 86 millions d'euros deviennent éligibles. Et éligibles, ça veut dire que en fait, il y a quoi, 75% de déduction pour la R&D avant et 30% après. C'est ça en fait. Hein. Vous voyez, donc il y a vraiment une chute. Quand vous n'êtes plus éligible, eh bien la déduction, elle est de 75% pour ceux qui sont éligibles, contre 30% pour les grandes entreprises, vous voyez, qui sont à la droite du seuil. Et on bouge le seuil, voilà. Donc là, on bouge le seuil, et on va voir qu'est-ce que ça fait de bouger ce seuil, d'accord ? Donc les données, c'est des données de firmes entre 2000 et 2012 en Grande-Bretagne. On a des données sur leurs dépenses de R&D et leurs charges financières. On a alors des données financières sur l'entreprise et on a des données de brevets. Et on met toutes ces données ensemble et voilà. Et alors là, vous embêtez pas avec l'équation, simplement ce que veut dire, c'est qu'on veut voir comment la R&D varie en fonction d'une indicatrice qui est une indicatrice d'éligibilité et de savoir si vous êtes inférieur à 86 milliards en 2007 ou pas, d'accord ? Et donc, c'est une indicatrice. Évidemment, si vous êtes inférieur à 86 millions d'euros en 2007, vous êtes éligible. Si vous êtes supérieur à 86 millions d'euros, vous n'êtes pas éligible, d'accord ? Donc, ceux qui sont au-dessus, dont le total, les actifs en 2007 étaient supérieurs à 86 millions d'euros, ils ne seront jamais éligibles. Et ceux qui dont l'actif sont inférieurs à 86 sont éligibles au titre de la loi nouvelle. Ils n'étaient pas au titre de la loi. Évidemment, une partie d'entre eux n'était pas éligible au titre de la loi ancienne. Et ce qu'on voit, c'est la chose suivante, c'est qu'en général, eh bien, les dépenses de R&D, vous voyez, elles croissent avec la taille de l'entreprise. Mais vous voyez que là, il y a un saut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, d'une manière générale, il y a une relation positive entre les dépenses de R&D et la taille de l'entreprise. Mais vous voyez que là, ça saute. Vous voyez que là, ça saute vers le bas. Vous voyez ? Et on a un manque à gagner. Donc, celles-là, elles ne sont pas éligibles. Et vous voyez, il y a un saut qui se passe ici. Et là, c'est très intéressant parce qu'on regarde l'effet de la politique, si vous voulez, de ce qu'il y avait avant. Donc, avant la politique, on voit qu'il n'y a pas d'effet d'être en dessous de la taille. On ne voit pas d'effet d'être ici avant la politique. Mais après la politique, vous voyez, avant la politique, il n'y a pas d'effet d'être là. Mais après la politique, évidemment, toutes ces entreprises, vous voyez, qui sont ici où je marque avec le petit point, elles vont être tout d'un coup, elles vont voir leur R&D boosté, elles vont voir leur R&D stimulé par ce changement. Et on voit que tout de suite, eh bien, vous avez la R&D des petites et moyennes entreprises qui ont des actifs inférieurs à 86 millions d'euros. Eh bien, vous voyez que leur R&D, elle va être évidemment après 2009. Quand la loi va entrer en vigueur, puisque l'idée, c'est qu'en 2009, on a dit, on va regarder vos actifs en 2007. Vous voyez, c'est ça qu'on regarde. En 2009, ceux dont les actifs en 2007 sont inférieurs à 86 sont éligibles. Et donc, on voit tout de suite que ça, eh bien, ça a un effet très positif sur leur R&D pour les années suivantes. Voilà. Donc ça, c'est le, vous voyez, là, vous voyez l'effet qui est très, très positif. Là, on regarde l'effet moyen. On a regardé chaque année. Là, on a fait la moyenne sur les années 2006-2008. On voit qu'il n'y a pas d'effet moyen avant la politique, mais il y a un effet moyen très fort après le changement de seuil. Et donc, la différence est avec une différence très, très significative et grande. Donc, il y a vraiment l'effet. On a stimulé la recherche dans ces entreprises. On peut regarder en termes de stimulation sur l'effort de recherche, mais on peut regarder aussi en termes de stimulation sur le nombre de brevets, parce qu'après tout, on peut dire, ben, la recherche, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça serve à produire des brevets, des innovations. Eh bien, on regarde, au lieu de regarder la R&D, on fait la même chose que tout à l'heure, mais en regardant le nombre de brevets. Et là, on a exactement la même chose, on a cette discontinuité, donc le nombre de brevets augmente avec la taille, mais vous voyez que vous avez cette discontinuité au seuil, c'est-à-dire que là, il y a tout d'un coup, eh bien, évidemment, ces gens-là ne sont plus éligibles, alors que jusque-là, on était éligibles, et vous voyez ce saut qui est là, et on retrouve exactement le même tableau que tout à l'heure, même type de tableau, mais maintenant, ce que je regarde, ce n'est pas l'effet sur l'input en recherche, mais sur l'effet en output de recherche, qui est le nombre de brevets, et vous voyez que vous n'avez pas d'effet avant la politique, mais vous avez un effet très important après que la politique soit mise en œuvre, pour les firmes qui ont un actif en 2007 inférieur à 86 millions d'euros. Et donc ça, c'est l'effet moyen sur les trois années, pour celles avant que la politique soit mise en œuvre. Ça, c'est l'effet après, et ça, c'est la différence qui est significative. Et donc, vous voyez le même genre si vous regardez l'effet sur la dépense en R&D et l'effet sur l'output de recherche, vous voyez que vous avez un effet très clair de l'incitation fiscale. Vous voyez, la fiscalité, ça a un effet. Quand il y a des gens qui vous disent « la fiscalité, ça n'a aucun effet sur l'innovation », c'est faux, ça a un effet très important sur l'innovation. Voilà. On peut regarder aussi la qualité des brevets, parce qu'on aurait pu se dire, finalement, il y a deux types de brevets. Il y a les brevets qui sont de moyenne qualité. Ces firmes anglaises, à ce moment-là, elles iraient breveter uniquement en Angleterre. Et il y a les brevets IPO, qui sont les brevets européens, qui sont beaucoup plus exigeants que les brevets purement anglais. Et là, on pourrait dire, on aurait pu penser qu'on pousse à plus de brevets, mais des brevets qui ne sont pas de bonne qualité. Or, vous voyez que les brevets IPO augmentent également à la suite de la politique, vous voyez. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a cette augmentation des brevets, non seulement en quantité, mais également en qualité, si vous mesurez ici la qualité, par la fraction de brevets qui est brevetée IPO. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder comment les brevets dépendent de la R&D, et parce qu'on peut dire, voilà, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est que j'ai incité à de la R&D qui a incité à des brevets. Pour le moment, qu'est-ce que j'ai montré ? J'ai montré que ça a incité d'un côté à de la R&D, de l'autre côté au brevet. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant montrer, c'est que ça incite au brevet parce que ça incite à la R&D. voyez, je veux dire, je voudrais maintenant mettre en évidence que c'est parce que c'est, ça a incité à plus de R&D que ça a conduit à plus de brevets. Ça aurait pu inciter à plus de brevets par de la sélection, simplement, et pas par le fait que j'ai incité à plus de R&D qui, elle, a produit les brevets. Hein. Et là, ce que je fais, c'est que j'instrumente, vous voyez, je régresse les brevets sur R&D, mais j'instrumente R&D par l'éligibilité. Vous voyez, je vais utiliser l'éligibilité comme instrument pour l'augmentation de la R&D. Et je vois que quand j'instrumente, eh bien, ça montre qu'il y a vraiment un effet causal de la R&D sur le brevet. Et que ce que je vois ici, c'est que c'est ce que j'appelle IV, c'est l'instrumentation. Et vous voyez, quand je fais la régression avec l'instrument, l'effet est beaucoup plus important. La dépense de R&D a un effet beaucoup plus important sur le brevet une fois que j'ai instrumenté la R&D par l'éligibilité, qui est une cause extérieure, tout à fait exogène, d'augmentation de la R&D, alors qu'avant, je ne montrais que des corrélations qui peuvent être évidemment entachées de toutes sortes de causalités allant dans tous les sens. Et là, j'ai bien mis en évidence la causalité qui va, en fait, j'ai l'éligibilité, elle augmente la R&D, et ça augmente les brevets. Et c'est ça l'effet que j'ai mis en évidence, vous voyez. Alors, on montre surtout que c'est vrai pour les jeunes. Vous voyez, c'est très important, c'est que cet effet-là est surtout important pour les jeunes entreprises. Vous voyez, ça a aidé surtout les jeunes de manière significative. Là, on voit un coefficient élevé, mais il n'est pas significatif. C'est vraiment surtout pour les jeunes que ça a un effet significatif. Je vois que cette loi, là, on regarde ce qu'aurait été l'économie britannique sans... le BERD, c'est le... C'est les brevets par habitant, c'est ça ? C'est les brevets, hein ? Et je regarde, disons que la France, c'est pas mal, les Britanniques, c'était là, et si j'avais pas eu le... Si je peux faire le counterfactual, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé ? Comment aurait évolué la Grande-Bretagne s'il n'y avait pas eu cette politique ? Eh bien, elle se serait dégradée davantage, et là, vous voyez, cette politique a stoppé la dégradation de la Grande-Bretagne. Peut-être maintenant, avec le Brexit, ça va retomber, mais en tout cas, ça a stoppé la dégradation de la Grande-Bretagne en matière d'innovation par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Et alors, également, ce que montre ce diagramme, ce transparent-là, c'est qu'en fait, eh bien, on montre que non seulement ça a aidé à l'innovation, à la R&D dans l'entreprise elle-même, mais également dans des entreprises qui ont une distance technologique faible avec cette entreprise. C'est-à-dire il y a des entreprises qui ont en fait, dont on peut penser qu'elles bénéficient d'externalités technologiques de cette entreprise, qui ont des caractéristiques communes avec cette entreprise. On a des mesures d'externalité technologique, de distance technologique, et on voit, c'est très intéressant, c'est que ça ne profite pas seulement... Vous voyez, de la même manière que je vous rappelle que je vous avais dit que l'innovation profitait à un travailleur et aux gens qui travaillent avec lui, ben c'est un peu la même chose pour les entreprises, c'est-à-dire que aider des PME, aider des firmes à innover davantage en faisant une fiscalité intelligente, ça aide non seulement la R&D dans ces entreprises, mais également dans d'autres entreprises qui ont des externalités, qui sont, disons, sur lesquelles ces entreprises ont des externalités technologiques, qui ont une proximité technologique suffisamment grande avec cette entreprise. Et donc, c'est intéressant parce que vous n'aidez pas seulement l'entreprise elle-même, vous aidez un certain nombre d'entreprises qui traitent avec ces entreprises, qui ont une proximité technologique avec cette entreprise. Voilà, donc j'arrête là, je suis un petit peu en avance. On a regardé la réforme d'évolution des seuils fiscaux, on a montré que changer les seuils fiscaux d'éligibilité, ça augmentait la R&D des firmes et la quantité de brevets, que les innovations n'étaient pas de qualité inférieure et qu'il y avait d'importantes externalités positives. Je viendrai au cours numéro 5, si vous venez, je vais parler des externalités. Et donc, si vous voulez, eh bien, la fiscalité, c'est important. Et si on la centre sur les firmes, évidemment, c'est très important de la centrer beaucoup sur les petites et moyennes entreprises aussi. Parce que vous savez, le crédit impôt recherche, on a souvent reproché en France qu'il est ciblé sur les grandes entreprises, trop sur les grandes et pas assez sur les petites. Il y a tout un débat là-dessus. Et je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. C'est-à-dire, c'est pas seulement la quantité de crédit impôt recherche qu'on donne, mais c'est comment on le cible sur les plus petits ou sur les plus gros. Et là, il y a tout évidemment une discussion à avoir sur comment je cible sur les PME et pourquoi c'est meilleur de le faire comme ça. Et donc voilà, c'est une première étude sur la fiscalité. La prochaine fois, je commencerai avec une étude qui vous montrera l'effet que la fiscalité a sur la mobilité des chercheurs. Comment ça peut inciter un chercheur à changer de pays. Et on verra qu'il y a des effets importants également. Et donc, la fiscalité est un élément très important. Et je crois qu'il y a un énorme défi de penser à une fiscalité intelligente qui accommode l'innovation. Et tous les grands spécialistes, comme je l'ai dit plein de fois, de la fiscalité en France, ne connaissent pas ce que c'est que l'innovation. Ils ne suivent pas l'innovation, à part quelques exceptions. Et ça, c'est un des gros problèmes. Il va falloir maintenant repenser la réforme fiscale en mettant l'innovation au centre du dispositif. Voilà, donc je voulais... Vous avez eu d'une patience d'ange aujourd'hui. Merci beaucoup.